Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula Mbombo.
Au sommaire de ce journal, après 5 bonnes années d'occupation des écoles par des familles des déplacés à Oïcha, elles sont enfin libérées. Ces familles occupent désormais des nouveaux abris construits par des organisations humanitaires dans les quartiers Oïcha 1er. L'administrateur du territoire des Congolo supprime les barrières érigées le long des axes routiers sur toute l'étendue du territoire. C'est pour, affirme-t-il, mettre fin à la tracasserie décriée par la population de sa juridiction. Notre invité est le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Luc Baweza Kabango. Il revient sur les préparatifs de la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 en faveur des enfants déplacés. Bonjour à toutes et à tous. La rentrée scolaire, c'est dans 2 jours. Dans le territoire des Beni, les écoles d'Oïcha, qui étaient occupées pendant 5 longues années par des familles de déplacés, sont enfin libérées. Depuis une semaine, ces familles ont quitté les établissements scolaires pour rejoindre leurs nouveaux abris, construits par des organisations humanitaires dans les quartiers Oïcha 1er. Cette évolution est saluée par l'autorité scolaire locale, qui appelle maintenant à la réparation des dégâts matériels causés. Les détails avec Sadiki Aboubakar.
Depuis 5 ans, les écoles primaires de Mwangaza, Andonga, Chamboko, le complexe scolaire Mukakira ainsi que les instituts Mabalako et Balolu étaient occupés par plus d'une centaine de ménages déplacés de guerre. Les élèves et les déplacés cohabitaient dans les mêmes salles de classe. Après de nombreuses démarches, l'ONG AIDES, avec le soutien financier du ACER, a construit des abris dans les sites d'Ibo et Louvangira, où ces déplacés résident désormais depuis une semaine. Enoch Moussoubao, chef de la sous-division de l'EPST Oïcha, exprime sa satisfaction.
Aujourd'hui, ok, déplacés des guerres dans nos écoles, tous sont déjà dans leurs abris. Je remercie très sincèrement nos autorités politico-administratives qui se sont impliquées dans les démarches auprès de nos différents partenaires.
Cependant, cette libération laisse derrière elle un goût amer à cause des dégâts causés. Enoch Moussoubao plaide maintenant pour leur réparation.
Ils ont laissé trop de dégâts matériels. Ils ont transformé les pupitres en bois de chauffage. Ils ont détruit nos tableaux de classe. Pour les latrines, là, on n'en parle plus.
Malgré ces problèmes, les inscriptions des élèves se déroulent normalement dans les écoles libérées. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
En Ituri, par contre, de nombreuses écoles de la commune rurale de Mungwalu sont encore occupées par les déplacés qui ont fui les attaques des groupes armés à Lodjo, Galaï, Pluto, dans le secteur de Banyalikilo. C'est l'inquiétude de la société civile de cette région minière à quelques jours de la rentrée scolaire. Chérubin Kukundilawa, vice-coordonnateur de cette structure citoyenne, indique que la situation sécuritaire et humanitaire reste encore préoccupante dans cette entité où vivent plus de 2000 familles des déplacés, dont des milliers d'enfants en âge scolaire. Il est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Il y a des écoles qui fonctionnent en déplacement dans la commune rurale de Mungwalu, dont notamment le cas de Epe Kombo Kombo de Lodjo, qui cette année va fonctionner en déplacement dans la commune de Mungwalu. Il y a Epe Andisa qui fonctionne dans la commune de Mungwalu depuis l'année scolaire 2021-2022, elle aussi c'est en déplacement en commune rurale de Mungwalu. Il y a Epe Beba qui a fermé complètement sa porte. On a plus de 2400 ménages de déplacés ici dans la commune de Mungwalu. Et dans le plus de 2400 ménages déplacés, ce qui fait au moins un total de 14 843 personnes, parmi lesquelles on a au moins 7 281 enfants. C'est quand même une statistique qui devrait faire l'attention des humanitaires. De notre côté, nous ne pouvons pas arrêter de lancer des cris d'alarme. L'école primaire EP3 Mungwalu, certaines de ces salles de classe, a servi pour héberger des déplacés. Et maintenant qu'il y aura rentrée, on ne sait pas comment il y aura cohabitation entre ces déplacés ainsi que les élèves qui seront le propriétaire de ces salles de classe.
Pendant ce temps, l'intersyndicale des enseignants dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 demande au gouvernement de respecter ses promesses, notamment celles sur l'augmentation des salaires. Dans un mémorandum remis mercredi au maire de Butembo, ces enseignants disent qu'ils sont fatigués des fausses promesses du gouvernement. Ils l'invitent à honorer ses engagements, faute de quoi ils menacent d'aller en grève. Moïse Ndungo, porte-parole des syndicalistes, explique au téléphone de Grévis Salomon.
Les enseignants, ils ne sont plus pour des promesses. Ils veulent la concrétisation de toutes les promesses déjà données bien avant. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas la première fois qu'ils nous promettent d'augmenter, mais chose qui n'a jamais été faite. Et donc, les enseignants demandent à ce qu'il y ait concrétisation de toutes les promesses déjà données. On n'est pas parti à Kinshasa pour faire d'autres accords ou bien demander quoi. On demande à ce que l'enseignant le moins gradé ait 500$ ou rien. Que le gouvernement prenne en charge toutes les nouvelles unités. Que le gouvernement accélère le processus de la retraite des enseignants qui sont retraitables, bien sûr, et paye les nouveaux bureaux gestionnaires, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas payés, qui sont encore NI. Mais dans toutes les recommandations que nous avons données, c'est-à-dire notre cahier de charges, le gouvernement n'a rien répondu. Les enseignants ont sauvé l'année plusieurs fois. Quand ils veulent aller en grève, on leur demande non. Voyez, vous comprenez. Cette fois-ci, nous avons déjà sauvé plusieurs années. Nous voulons que l'enseignant soit aussi sauvé.
En province du Tanganyika, l'administrateur du territoire des Congolos décide de supprimer toutes les barrières érigées le long des axes routiers sur toute l'étendue du territoire. Dans une déclaration aux médias ce jeudi, Jean-Paul Ngongo fait savoir que cette décision se justifie par la tracasserie décriée par la population. Il précise que ces barrières sont érigées par le service de la DGM, l'ANER, le Transcom, le FRDC et la police. On écoute Jean-Paul Ngongo dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
La décision, je ne l'agis pas à moi-même, je l'agis en qualité de l'administrateur des territoires à l'issue d'une réunion des conseils de sécurité. C'est une décision avec comme objectif la suppression des barrières, les barrières érigées par les agents des services de l'État qui se sont contournés de la mission auquel ils sont placés le long de nos routes. Un service de l'État peut créer un poste de contrôle. Le poste de contrôle n'est pas égal le poste où on doit ériger la barrière. Voilà pourquoi, quand j'ai observé cette anomalie et quand j'ai été saisi des cris de la communauté, de la population en déplacement, en rapport à ce qu'on leur demande, je me suis dit, je dois capitaliser la vision du chef de l'État. J'ai supprimé ces barrières de ces agents-là qui sont en train de tracasser la communauté. J'ai dit tous ces agents là-bas, rentrez à leurs offices. D'ailleurs, je n'ai même pas dit, moi je ne me suis pas adressé aux agents, je me suis adressé à leurs gestionnaires qui doivent inviter le plus tôt possible tous ces agents pour un recadrage jusqu'à nouvel ordre.
Retournons au Nord Kivu pour parler des voyageurs entre Goma et Kampala en Ouganda qui s'interrogent sur la nature des frais des 20 000 shillings, soit un équivalent de 7$ déboursés à l'immigration ougandaise au poste de Tchanika avant l'apposition du visa sur leur passeport. Ils disent ne rien comprendre quant à ces frais alors que la RDC et l'Ouganda avaient convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi d'un visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Christian Bila, un voyageur, partage ici son inquiétude. Il est au micro de Denise Loukesso.
Je viens pour faire un petit témoignage, que j'ai vécu en Mermont. Je fais un petit déplacement vers l'Ouganda. Je suis passé par Tchanika. Alors, arrivé là-bas, j'ai fait un petit constat. Le visa qu'on savait gratuit, puisqu'aujourd'hui la RDC est entrée dans la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qui rend le visa gratuit de la RDC dans plusieurs pays ici du Grand Lac, notamment l'Ouganda. Mais j'ai constaté que chaque personne qui passait là-bas, Congolais, payait 20 000 shillings, que nous ne savons pas la nature de cet argent. Est-ce un visa ou se perçoit pour autre chose? Je voulais quand même qu'on puisse éclairer l'opinion par rapport à ça. Ça serait une très bonne chose.
Autre nouvelle, la police nationale congolaise évolue bien vers une police redevable et réformée. C'est l'appréciation exprimée ce jeudi par le général de brigade Hassan Beye. C'est au cadre de la police de la MONUSCO en fin de mandat d'y se réjouir de ces résultats suite à des efforts conjoints entre la mission onusienne et les gouvernements congolais. Pour lui, si beaucoup reste à faire, la performance que la PNC a atteinte à ce jour est largement satisfaisante. Le général Hassan dans ses propos recueillis par Alain Wandimoy.
La mission a mis les moyens humains et les ressources financières pour que nous puissions y aller ensemble. Des objectifs ont été atteints. Et nous le voyons tous les jours avec les transformations que nous pouvons constater au niveau de la police nationale congolaise, qui est notre partenaire privilégié. Le plan conjoint pour la réforme de la police a été signé par le ministre depuis quelque temps. Hier, je sais que le vice-premier ministre chargé de la sécurité intérieure et affaires coutumières était encore à la fermeture d'un atelier sur la réforme. Donc, les choses avancent et nous n'avons pas peur pour la police congolaise. Nous savons que l'œuvre est grande, les chantiers sont vastes. Les attentes sont énormes, mais nous sommes sûrs que la police nationale congolaise est sur la voie de la réussite. Elle sera, dans quelques années, avec le soutien de l'État et des populations congolaises, nous arriverons à une police redevable qui lutte contre l'impunité et qui va être là pour sécuriser l'ensemble des populations congolaises.
Notez qu'après quelques années passées au poste de commissaire adjoint de la police des Nations Unies, le général Hassan Beye quittera la RDC à la fin de ce mois d'août. Au niveau de Goma, il a assumé pendant son dernier mois les fonctions de chef intérimaire de la police de la MONUSCO. À Beni, en Nord-Kivu toujours, l'évêque du diocèse catholique de Butembo, Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, tire la sonnette d'alarme face à l'avancée du Mpox. Dans un communiqué pastoral du 28 août 2024, il exhorte la communauté de la région des Beni, Butembo et Lubero à redoubler des vigilances et à respecter les mesures barrières pour ralentir cette maladie virale. Martial Papi Mukeba nous en dit plus.
Dans son message, Mgr Sikuli Paluku Melchisedek rappelle que le Mpox, une maladie infectieuse virale hautement contagieuse, continue de progresser dangereusement dans les pays. Il insiste sur l'importance de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, non seulement lors des célébrations religieuses, mais aussi dans toutes les sphères de la vie quotidienne. À la maison, au marché, à l'école et même dans les activités sportives. Les mesures préconisées incluent l'évitement des contacts directs avec des cas suspects, l'entretien d'une hygiène rigoureuse et la prudence face aux animaux morts ou objets potentiellement contaminés. L'évêque souligne également l'importance d'orienter rapidement les malades vers les structures de santé adéquates et met en garde contre toute politisation de la maladie. Signalons toutefois que jusqu'à ce jour, aucun cas positif de Mpox n'a été notifié dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Revenons alors sur la connaissance de cette maladie au sein de la population. Cependant, nombreux sont les Kinois qui affirment ne pas disposer d'assez d'informations sur cette épidémie. Le Mpox ou la variole des singes est une maladie virale et contagieuse qui tire sa source chez un animal malade ou mort au contact physique avec l'homme. Pourtant, dans plusieurs communes de la capitale, la maladie prend de plus en plus de l'ampleur au vu du nombre de personnes contaminées par semaine. Arcel Kajou et Miradine Fouengi ont rencontré quelques Kinois. Voici leur reportage.
Des personnes interrogées, il se dégage une marge importante de celles qui déclarent ignorer tout de la maladie de monkeypox. Témoignage.
Jusque-là, je ne connaissais rien de cette maladie. Je viens d'être informée par vous et l'apprendre m'a effrayée.
Je ne connaissais pas la nouvelle de cette maladie qui circule. Comme je suis au courant, même chez moi à la maison, je fournirai un effort pour me protéger.
Malgré l'ignorance de plusieurs, quelques personnes affirment connaître la maladie, mais elles estiment que le gouvernement doit multiplier les efforts dans la sensibilisation de la population.
Nous demandons au gouvernement plus de sensibilisation, qu'il envoie des agents de santé dans les rues. Dans certains coins de la ville, il n'y a pas d'électricité.
Qu'il envoie des agents de santé faire une sensibilisation. Certaines personnes n'ont même pas de téléphone pour être informées.
Docteur Yung Okunji, médecin chef d'antenne de Monkeypox à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, parle des mesures à prendre pour se protéger contre cette épidémie.
Nous devons revenir à toutes nos mesures qu'on avait pendant les Covid. Éviter les endroits publics. Nous avons aussi enregistré certains cas. Les gens qui ont présenté la maladie juste après s'être baigné dans des piscines publiques. Respecter la distanciation et porter les masques.
Le meilleur moyen de se protéger contre le monkeypox reste le respect de ces mesures. Rappelons que les monkeypox se transmet aussi par voie sexuelle.
Actualité internationale.
Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a terminé sa tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Cette visite de 3 jours visant à stimuler la coopération dans les contrôles de la migration irrégulière de la région en direction des îles Canaries s'est achevée par une rencontre avec le président sénégalais à Dakar, Bassirou Diomaye Faye. Le premier ministre espagnol a notamment annoncé la signature d'un protocole d'accord en faveur d'une migration dite circulaire, car il nous permettra d'élargir et d'améliorer celui qui existe déjà, d'incorporer des nouveaux secteurs d'activité économique et d'inclure la formation et les renforcements des capacités des travailleurs sénégalais qui s'installent en Espagne, a-t-il déclaré.
L'invité.
Les préparatifs de la rentrée scolaire vont bon train dans la province éducationnelle Nord Kivu 1. Des solutions ont été trouvées pour accueillir des milliers d'enfants déplacés ainsi que leurs enseignants. Mais les besoins sont encore énormes car il faut encore des classes supplémentaires, près de 2000 salles de classes qui devront être construites pour contenir plus de 160 000 enfants déplacés. Notre invité, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, basé à Goma, Monsieur Luc Baweza Kabango, en parle dans cet entretien avec Gisèle Cage.
Monsieur Luc Baweza, bonjour.
Bonjour, madame.
À quelques jours de la rentrée, nous voulons savoir comment se passe le préparatif dans les établissements scolaires dans la province du Nord Kivu.
Tout va bon train dans la province et il n'y a rien qui va arrêter le train qui est déjà en marche.
Qu'est-ce qui se passe dans les territoires qui sont sous occupation de rebelles du M23? Avez-vous des échos de ces côtés-là? Est-ce que tout se passe bien aussi?
Je dois vous rassurer que pour l'année qui venait de s'achever, nous avons assisté à au moins 450 écoles qui ont été fermées et d'autres délocalisées dans les périphéries de la ville de Goma. Et dans les camps situés autour de la ville, nous comptons plus de 600 000 enfants qui se sont déplacés, qui de Rutshuru, de Kibumba et de Masisi vers la ville de Goma, et que nous sommes en train de dénombrer pour voir comment on peut les réintégrer dans les circuits scolaires, dans les écoles de périphérie des camps, tout comme dans les espaces temporaires d'apprentissage qui sont en cours de construction et d'autres qui seront aussi construits ultérieurement pour que nous puissions absorber tous ces enfants-là. Je ne peux pas vous dire avec exactitude ce qui se passe dans la zone occupée. Néanmoins, nous nous occupons de tous ces enfants-là qui se sont déplacés de la zone sous occupation vers la partie gouvernementale et qui est sous notre contrôle.
Donc vous êtes prêt dès le lundi à accueillir également des enfants déplacés?
Effectivement, madame.
Mais comment ça va se passer pour cette catégorie d'élèves qui sont d'abord déplacés dans une situation de vulnérabilité? Vont-ils commencer à payer les frais scolaires? Qu'est-ce qui est prévu pour accompagner ces élèves?
Sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire du Nord Kivu, nous avons constitué une commission qui travaille d'arrache-pied sur la réinsertion de tous ces enfants, mais également les actions de plaidoyer que nous sommes en train de mener pour que nous trouvions des partenaires qui puissent répondre aux besoins de ces enfants, c'est-à-dire les appuyer en fourniture scolaire, mais également en place assise, en fabriquant des bancs ou en fournissant des bancs qui pourront aider ces enfants à améliorer leurs conditions d'apprentissage au même titre que tous les autres enfants qui se trouvent dans la zone sous contrôle.
Donc on n'est pas sûr que les enfants déplacés vont retrouver le chemin de l'école de lundi. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont
madame,
répondu?
Je ne dis pas ça, c'est un acquis. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons eu à faire scolariser les enfants déplacés, mais c'était à peu près une affaire de 140 000 qui ont été scolarisés. La plupart étaient restés à la maison puisque vous savez, il y a aussi le problème de la prise en charge psychosociale. Alors nous sommes en train de travailler avec toutes les parties prenantes pour que dès cette rentrée scolaire, tous les enfants soient récupérés, mais également les enseignants déplacés qui sont dans et autour des camps, dans les familles d'accueil, sont aussi concernés par la rentrée scolaire. Mais la question qui reste, c'est celle de pouvoir mobiliser tous les partenaires qui peuvent nous appuyer en construisant d'autres espaces temporaires d'apprentissage. Nous avons vu beaucoup de partenaires, entre autres l'UNICEF, le NRC et tant d'autres structures. Il y a dernièrement aussi Vodacom qui est intervenu pour la construction de 10 salles de classe, mais c'est encore insuffisant.
Mais vous avez besoin de combien de salles de classe pour contenir tous ces enfants déplacés?
Après examen avec la commission ad hoc qui est mise en place, nous avons estimé à au moins 1982 salles de classe qui doivent être construites dans les camps. donc des salles de classe temporaires. Mm-hmm. Et vous trouvez que d'emblée, il y a un coût qui doit permettre de faire face à toutes ces constructions. Raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces actions de plaidoyer, madame.
Hormis ce besoin de déplacer, quels sont d'autres besoins que vous avez au niveau de la province éducationnelle Nord Kivu 1?
Madame, les besoins sont très nombreux, mais le besoin le plus primordial, c'est l'espérance au retour de la paix. La paix a un prix. La paix ne se négocie pas. Donc si réellement la paix revient dans la zone, toutes ces familles qui sont maintenant en déplacement pourront regagner aussi leur localité d'origine et vont vivre en toute quiétude puisqu'on est mieux que chez soi.
Monsieur Lick Baweza Kabango, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Luc Baweza Kabango, directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, répondait aux questions de Gisèle Cage. Et c'est la fin de cette édition des nouvelles sur Radio Kapi. Jean-Noël Mokondo l'a mise en onde pour vous sous l'œil vigilant de Richard Junior Kamungambo Achimankinda. Merci à vous de l'avoir suivi.